Bonjour, nous sommes le lundi 21 mai 2018, vous écoutez Radio Campus Paris, il est 14h, c'est l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Bah, je voudrais devenir peintre, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
Tous les jours, la relève, tous les 15 jours même, la relève, c'est bientôt, c'est la rentrée tous les jours. Tous les 15 jours, donc la relève, c'est 30 minutes à la rencontre des nouveaux talents. Aujourd'hui, c'est merveilleux, on n'en a pas un, mais deux talents, l'un lit, l'autre écrit. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, puisque celui qui écrit, qui lit aussi, et celle qui lit, et celle qui écrit, lit aussi sûrement. Nos invités sont écrivains et éditeurs, et ils sont avec nous aujourd'hui. Bonjour Jean-Baptiste Gendarme.
Bonjour.
Alors vous êtes l'écrivain-éditeur.
Exactement.
Merci d'être avec nous. Vous avez publié donc il y a quelques mois votre 8e roman chez Gallimard avec un titre magnifique, je trouve, La nuit et des poussières. Vous êtes
merci.
Aussi le cri... Oh pardon.
Non, j'ai dit merci pour le titre
mais
magnifique.
Je vous donne du temps pour me dire merci. Vous êtes aussi le créateur de la revue Décapage qui en est déjà à son numéro 58 avec un coup de projecteur sur l'œuvre de Nathalie Kuperman. Mais si vous êtes aujourd'hui avec nous, c'est parce que vous dirigez depuis peu une collection chez Anne Carrière.
C'est pas toujours facile, on publie des textes, parfois on n'y arrive pas à les faire reconnaître, on n'arrive pas à trouver des lecteurs, on est déçu, les auteurs aussi, c'est pas un métier tellement facile que ça, passionnant, ô combien passionnant. Et donc quand tout d'un coup il se passe quelque chose comme ça, sur un livre sur lequel on est sans doute, sans aucun doute, je dirais d'une certaine façon, parce qu'on l'a porté avec un enthousiasme et une détermination, et en plus ça, il fait tellement honneur à la littérature, et en plus de ça, il nous parle de choses qui nous paraissent tellement importantes aujourd'hui.
Françoise Nyssen, quand il y a des moments de succès comme celui-ci, est-ce que vous vous retournez, est-ce que vous prenez quelques minutes pour vous retourner sur l'aventure Actes Sud? Tout a commencé, peut-être avec pas grand-chose, c'est à vous de nous dire, en 1978, avec vos parents.
Voilà, en 78, Hubert et Christine, mon père et ma belle-mère, qui est traductrice et qui travaille toujours à traduire des textes et des auteurs importants, ont décidé de créer cette maison d'édition. C'est mon père qui a eu l'idée. Et moi, je n'ai pas résisté à cette aventure. Je suis arrivée à l'initiale, on peut dire. Et très rapidement sont arrivées deux autres personnes qui sont toujours là et qui sont le cœur de cette maison.
Mais quand même, vous étiez docteur en biochimie moléculaire, diplômé d'urbanisme à l'époque, mais vous avez choisi les livres, sans hésiter.
Chaque fois, j'ai choisi sans hésiter. Quand j'ai décidé d'arrêter de faire de la recherche en biologie moléculaire pour faire de l'urbanisme et militer dans les comités de quartier, je n'ai pas hésité. Et quand il s'est agi de rejoindre cette aventure que je trouvais absolument incroyable et insolite pour moi, je ne savais même pas que ça existait, ce métier, et bien, je n'ai pas hésité non plus, c'est vrai. Et je ne l'ai pas regretté non plus, pas un seul jour.
Et pas un seul jour, donc, parce qu'en plus ça marche. Aujourd'hui, Actes Sud, c'est 300 personnes.
Oui, c'était Françoise Nyssen, interviewée par Caroline Roux sur Europe 1, c'était en 2015. Le Actes Sud venait d'avoir le prix Goncourt attribué à Éric Villard pour l'ordre du jour. Jean-Baptiste Gendarme, je crois que je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Jean-Baptiste Gendarme, vous allez devenir quand ministre de la Culture?
Je ne sais pas si c'est au programme. Maintenant, je suis depuis quelques mois éditeur et ça me suffit pour le moment pour remplir mes journées.
Vous êtes biochimiste de formation?
Non, malheureusement, non.
C'est pas obligatoire, vous avez fait quoi alors, vous?
Moi, j'ai fait une fac de lettres, après j'ai fait un UT métier du livre pour travailler dans l'édition.
Ah oui, plus classique donc,
voilà, plus classique.
Pour le coup. Alors, vous étiez écrivain jusqu'à maintenant et directeur d'une revue, vous ennuyez pour vous lancer dans cette idée de créer une collection?
Non, alors en fait, ça fait quand même des années que je travaille avec des jeunes auteurs, notamment avec La Revue, qui est une revue de création où on publie, on a découvert beaucoup d'auteurs qu'on publie ensuite après dans les maisons d'édition, donc ils ont fait leurs premières armes dans la revue.
Où ils publient souvent des nouvelles.
Et où on publie des nouvelles, ouais.
Souvent.
Souvent, c'est comme ça que je les découvre. Je pense par exemple à Clément Bénèche, hein, qui est un auteur qui a fait trois livres chez Flammarion maintenant et qui avait bien marché avec ses premiers livres. Et c'est une nouvelle qu'il m'avait envoyée comme ça par la poste. Et j'avais tout de suite décelé son talent. Donc ça fait quand même une quinzaine d'années que je lis des textes, que je reçois des manuscrits et que j'essaie d'accompagner des auteurs. Et j'ai été plusieurs années apporteur de projets dans différentes maisons, que ce soit le diable.
C'est quoi un apporteur de projet? Parce que les gens à l'extérieur, ça fait peut-être
pas
forcément.
Ce sont des gens justement qui apportent des textes à des éditeurs, parce que moi c'était via La Revue, je découvrais des jeunes auteurs qui m'envoyaient des nouvelles, après j'ai dit est-ce que vous n'avez pas des romans, et après j'apportais ces romans à des éditeurs. Et notamment, j'ai beaucoup travaillé avec les éditions Alma, avec des auteurs comme Thomas Vineau, Arnaud Dudek.
Et on en a reçu un ici, Olivier Liron.
Et Olivier Liron, effectivement, c'est un de mes auteurs.
C'est un des auteurs, très bon choix.
Voilà.
Et donc, publie son deuxième roman à la rentrée.
À la rentrée. Et donc, lui, c'est pareil, Olivier Liron m'avait envoyé une nouvelle qu'on a publiée dans la revue, et puis après, il m'avait fait lire son roman que j'ai après...
Et donc, d'apporteur d'auteur, on dit apporteur d'auteur ou apporteur d'affaires, d'apporteur de projet, pardon, et dans l'édition, on ne parle pas d'affaires.
Non, on ne parle pas d'affaires.
À éditeur, on passe comment?
Eh bien, en fait, il y a 2 ans, j'ai passé une étape, j'ai créé une agence pour représenter les auteurs, pour que ce soit un peu plus officiel. Donc j'étais agent d'auteur. Et un jour, en présentant mes auteurs à Stéphane Carrière, qui dirige maintenant les éditions de Carrière, il m'a dit écoutez, tous vos auteurs ont l'air bien, venez travailler avec moi. C'est comme ça que.
Et vous avez accepté tout de suite? Vous avez hésité?
J'ai accepté. J'ai accepté la proposition parce qu'au fond de moi, je savais que c'était le métier que je voulais faire, que je voulais être éditeur depuis longtemps, depuis toujours.
Alors moi j'ai pas lu je crois que vous en avez publié 4 là en
6.
Début 6, bah voilà, je sais pas compter.
C'est bonjour, c'est
bonjour. Je sais lire, j'espère que je sais lire, c'est la seule question qui compte aujourd'hui. Et il y a comme un lien j'ai trouvé entre vos livres que vous publiez en tant qu'auteur et ceux que vous publiez. Alors, je sais pas si c'est un hasard des 2 que j'ai lus ou s'ils sont tous comme ça. Parce que ce sont des livres qui, je dirais ceux que j'ai lu, qui est Le Beau de ma jeunesse d'Alexis Ferraud et La Dérobée de Sophie Debert. C'est que ce sont des livres qui décrivent un quotidien très banal avec un drame qui plane. Et on trouve ça aussi chez vous, notamment dans votre dernier livre. Alors, est-ce que c'est un choix délibéré? Vous voulez être dans une écriture du quotidien?
Alors, moi, pour mes livres, oui, effectivement, c'est une écriture du quotidien, une observation, en fait, du monde d'aujourd'hui tel qu'il est. Après, dans mes choix d'éditeur, pas forcément, parce que la BO de ma jeunesse, c'est quand même une plongée dans les années 90, donc c'est quand même le quotidien un peu passé. Et c'est l'adolescence.
Ouais, c'est la raconter de la vie d'une famille.
Ah oui, raconter la vie d'une famille.
Pas fantastique. C'est ça que je veux
dire. Ah oui,
c'est
très, bah, ouais, oui, effectivement,
très ancré dans le réel.
La littérature qui me touche et les livres qui me touchent et ce qui m'anime, c'est effectivement, c'est très ancré dans le réel. Ouais, très ancré.
Et on n'est pas forcément dans un roman. J'allais dire à Balzac pour prendre un grand nom passé où l'histoire où les protagonistes sont dans l'histoire avec un grand H, mais c'est plutôt des personnages qui sont frappés par l'histoire.
Oui, ce sont des souvent. Alors par contre, c'est vrai que ce sont souvent des gens dont qu'on voit pas généralement. Moi, par exemple, pour le premier roman de Sophie Debert, La Dérobée. Claire, qui est le personnage principal, elle a une vie plutôt simple, presque médiocre. Elle vit avec son mari, elle ne sait plus trop si elle l'aime. Elle est chef de caisse sur une aire d'autoroute. Bon, voilà, et un jour, il se passe quelque chose dans sa vie. Elle tombe face à face avec son premier amour. Et voilà, qu'est-ce que ce changement, qu'est-ce que cette rencontre va amener en fait dans sa vie? C'est ça aussi qui m'intéresse. La littérature peut déceler ça et décrypter ces moments-là.
Sophie Debert est avec nous, je crois, au téléphone. On va lui dire bonjour, vu que
vous
l'avez cité quand même, on va en profiter. Bonjour Sophie Debert.
Bonjour.
C'est ce qui vous intéresse, vous aussi, dans la littérature? C'est de raconter la vie des gens telle que vous l'observez?
Ah oui, tout à fait. Oui, effectivement. Mon héroïne, comme le disait Jean-Baptiste, c'est vraiment la girl next door, la femme presque invisible.
Elle le dit d'ailleurs à plusieurs fois qu'on ne la voit pas et qu'elle est celle qu'on ne voit pas. Oui. Elle le dit, pardon, je vous ai coupé la parole.
Tout à fait, oui, c'est ça. Et moi, je m'intéresse justement à ces gens, entre guillemets, invisibles.
Et donc, vous avez aussi envie de les faire se rencontrer avec quelque chose de plus grand qu'eux? C'est ça qui vous intéresse?
Exactement. Oui, c'est ça. Dans ce roman-là, effectivement, c'était ma volonté de montrer que, finalement, d'en faire une histoire à la fois banale et singulière, voire pour montrer un petit peu l'universalité, finalement, des sentiments. Même si on est, effectivement, comme le disait Jean-Baptiste, un personnage tout à fait banal, responsable de boutique d'autoroute, il peut quand même nous arriver des choses extraordinaires.
Elle est responsable d'une boutique d'autoroute, mais elle a surtout une enfance fracassée par la mort de son frère assez jeune. Enfin, il y a toute la première partie, la première partie qu'elle récite son adolescence, notamment avec cette famille où un enfant est mort. Donc elle vit quasiment avec des âmes mortes, comme aurait dit l'autre.
Exactement, mais son existence, en fait, elle est marquée dès le départ par le sceau de la mort et même de l'abandon, puisque ses parents eux-mêmes ont cessé d'être vivants. Hein. Ils sont là, mais finalement, ils sont déjà morts et elle ne peut pas trouver sa place. Et c'est très difficile pour elle, justement, de continuer son existence. Finalement, elle vit sa vie sans la vivre. Oui. Elle flotte.
Mais elle flotte. Exact, c'est exactement ça. Alors Jean-Baptiste Gendarme, on en profite que vous êtes là pour parler aussi un petit peu de votre dernier roman, La Nuit et des Poussières. Alors, il est assez, moi, je crois qu'il y a un point commun, mais en même temps, ils sont très différents, vos, vos deux livres. Est-ce que d'abord, vous avez lu forcément Sophie, mais Sophie, vous avez lu les livres de Jean-Baptiste ?
Évidemment.
Vous pouvez évidemment, pas dire le contraire, là.
Pas dire le contraire.
Oui, non, évidemment, et j'ai beaucoup apprécié.
On va faire un jeu. Est-ce que vous pouvez nous parler de celui-là, La Nuit et des Poussières ? Peut-être vous l'avez lu il y a trop longtemps et vous en souvenez pas. C'est pas un piège.
Non, hein. Je l'ai lu il y a quelques temps déjà, mais c'est un livre qui m'a beaucoup marqué parce que c'est un livre d'aujourd'hui qui regroupe quand même beaucoup des points noirs hein, de la société actuelle. Et bon, il en regroupe beaucoup. C'est vrai qu'à la fin de la lecture, moi j'étais un peu...
C'est un livre assez terrible parce qu'il fait partie de ces livres qu'on est obligé de lire deux fois, car il y a dans la dernière page, il se passe quelque chose qui donne quasiment, qui oblige presque le lecteur à le relire une deuxième fois.
Ouais,
vous l'avez fait
exactement.
Exprès, ça
hein? Ah bah oui, j'ai fait exprès.
Je sais pas.
Non, si, j'avais la fin, c'est la première fois, j'ai pas vraiment de recette pour écrire mes livres, mais c'est la première fois que je savais comment le livre allait se terminer. Donc j'ai essayé de mettre quelques indices.
Oui, il y a quelques indices.
Vous racontez, moi je résume ça comme ça parce qu'en plus il ne faut pas dire la fin, vous racontez finalement la fuite d'un homme assez ordinaire qui raconte la déglingue de sa famille ordinaire peu à peu.
C'est ça, c'est exactement ça, c'est l'histoire d'un homme qui perd pied un peu dans le monde d'aujourd'hui, qui se demande comment il va élever ses enfants, quel avenir il va pouvoir leur offrir. Lui-même, il ne sait pas comment s'en sortir, il ne bosse pas trop, il est auteur de documentaires, mais il n'arrive pas vraiment à se réaliser parce que pour faire les documentaires qu'il voudrait faire, il faudrait qu'il quitte sa famille, qu'il parte. Ça se passe en 2014, donc c'est le début de la guerre en Syrie. Donc il se pose des questions, il dit c'est là-bas qu'il faut que j'aille, mais sa famille, mais non, tu ne vas pas aller là-bas alors que tu as deux enfants, il a deux petites filles et tout. Donc c'est aussi comment se réaliser, comment vivre pleinement sa vie et ses velléités un peu artistiques, même là, si c'est pas, c'est plutôt du documentaire, c'est de témoigner encore hein, sur le monde. Et voilà, donc c'est ça, c'est aussi un livre sur le déclassement social parce qu'il souffre de ne pas forcément occuper la place qu'il devrait occuper dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui touche, à mon avis, beaucoup de gens.
J'y avais pas pensé, mais en vous écoutant, je me disais que votre personnage, finalement, était peut-être le petit cousin d'Antoine, qui est l'amant magnifique de Sophie Debert, qui lui est photographe et qui parcourt le monde.
C'est vrai, peut-être qu'ils ont un lien.
Alors, puisqu'on a complètement tout cassé le conducteur. Mais c'est ma journée. Je voulais qu'on revienne juste à cette collection et vous demander, Jean-Baptiste Gendarme, pourquoi vous l'avez lancé ? Est-ce que c'était un choix de le lancer en janvier plutôt qu'en septembre ? La grande rentrée en littérature, c'est en septembre d'habitude.
C'est vrai, mais là, on avait des livres assez forts qu'on pouvait aussi lancer en mars. Donc, les premiers livres sortis en mars, en fait.
Pardon.
Non, mais c'est pas grave. C'est pour le salon du livre, c'était bien d'avoir des nouveautés. La particularité, c'est que j'ai sorti effectivement 6 livres et avec beaucoup de premiers romans, mais c'est parce que, historiquement, ça fait 10-12 ans que je travaillais avec des primo-romanciers, donc je reçois spontanément beaucoup de textes de primo-romanciers. Donc c'est pour ça que...
C'est vrai ce qu'on dit qu'on en reçoit beaucoup de mauvais?
Mais alors, je me faisais la réflexion tout à l'heure que je trouvais qu'on en reçoit de moins en moins de mauvais. Enfin, on en reçoit de plus en plus de bons manuscrits. Alors, je ne sais pas après si je ne vais pas tous les publier, puisque je ne peux pas publier tout ce que je reçois. Mais c'est vrai qu'il y a sur des manuscrits, je me pose vraiment les questions. Et je me dis, mais c'est pas nul, c'est bon. Mais je dis, est-ce que maintenant, j'ai le publié. La question, en fait, maintenant que je suis éditeur, c'est vraiment comment on va vendre le livre. C'est ce que disait Françoise Nyssen dans la petite intro, c'est que souvent, on aime des textes, mais la difficulté, c'est derrière de trouver le lecteur.
Et quand on crée, comme c'est une collection, il y a aussi l'envie de créer une tonalité, lui donner un ton qui est qu'on dise, tiens, ça, c'est du gendarme.
Alors ça, je ne sais pas, parce que quand même, mes livres, là, sont assez différents les uns des autres, hein, sur les 6 que je publie. Après, moi, l'identité, elle vient déjà sur la couverture. Alors là, la radio, on ne s'en rend pas compte, mais il y a une identité graphique assez forte, avec un code couleur qu'on retrouve sur tous les livres. J'ai 5 couleurs, et toutes mes couvertures sont créées à partir de ces couleurs-là.
Avec très belle typo, travail sur la typo.
Un jeu typographique.
C'est plutôt des romans jeunes adultes, quand même.
Oh non.
Non, c'est une question.
Non. Non,
c'est littérature générale.
Une littérature générale, oui.
parti à la vitesse d'un avion de chasse, d'une bombe atomique qui foudroie, qui terrasse. Elle parcourait le monde, passe et repasse, du mépris dans la voix, cocaïne comme seule trace. Elle n'effleurait plus la peur du vide et de la solitude. Elle se noyait dans l'opium au triangle des Bermudes, aussi éphémère que le turquoise au fond des piscines. Elle prenait goût à mélanger champagne et aspirine, comme les cendres rosées d'une clope dans la nuit, comme l'odeur vanillée d'une robe fleurie. Belle, belle, évanescente, celle, celle d'une envie méchante. Sur un sofa de velours et les néons tamisés de lumière noire, vertigo, couleur citron, éclaire ses courbes accomplies, photoshopées sur logiciel. Pas de défaut, d'anomalie, sans un nuage, rien que le ciel. Le doigt sur la détente et s'enclenche la focale, figée la pente ascendante de son corps à l'horizontale, éblouie par les projecteurs et les mensonges de l'ivresse, aveuglée par la peur et puis les songes qu'on lui laisse. Comme les cendres rosées d'une clope dans la nuit, comme l'odeur vanillée d'une robe fleurie. Belle, belle, évanescente, celle, celle d'une envie méchante. Impassible, glaçon dans le désert, la beauté infaillible, céleste et singulière. Lui, on suffit à s'approcher, bien trop de la lumière pour y brûler enfin vive les braises, puis la poussière et ses taillades et les veines, en regardant le sang couler dans les reflets de la Seine et ses artifices de buée, pour y plonger tout entière, pour à jamais se noyer, en oubliant les chimères qui l'ont perdu, qui l'ont tué. Stopper l'hémorragie et les milliers de questions qui entrent dans sa tête, une cage de béton, des recoins des tranchées, la folie lancinante, pour peut-être enfin céder à cette putain d'envie méchante.
Je crois que c'est le jour. C'était Team Dub qui avait une envie méchante. Il est à la Cigale le 31 mai. Et pour avoir eu la chance de le voir dans le cadre du Festival Culturissime, je vous le recommande chaudement, car sur scène, c'est un personnage à la fois sensible et amusant.
La Relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
C'est toujours La Relève. On est toujours avec Jean-Baptiste Gendarme dans le studio et Sophie Debert avec nous au téléphone. Même si cette émission a l'air quelque peu chaotique, on n'avait pas choisi Team Top complètement par hasard, parce qu'il a un univers, j'ai trouvé, assez proche des livres que vous publiez. Il parle par exemple de mélancolie heureuse dans une de ses chansons, et je trouve qu'il y a quelque chose de ça, en tout cas dans ceux que j'ai lus de vos premiers livres. C'est quelque chose qui vous intéresse, ce sentiment-là, Jean-Baptiste Gendarme?
La mélancolie? Oui. Ah oui, peut-être qu'il y a quelque chose dans la mélancolie qui me touche et qui fait que... Voilà, qui nous plonge en tout. En tout cas, la mélancolie, c'est quand même un sujet assez littéraire. Donc, c'est bien que des auteurs s'en emparent. Et donc, dans les livres que je publie, effectivement, que ce soit dans le livre de Sophie Debert, qu'il l'est un peu, ou celui d'Alexis Ferraud, que vous
qui l'est beaucoup
tout à
même.
Ouais, qu'il l'est beaucoup. Mais c'est parce que je veux pas non plus dire que c'est un livre triste ou.
C'est pas un livre triste, parce que c'est aussi une histoire d'une renaissance. Sophie Debert, oui. Vous êtes avec nous, vous nous entendez toujours?
Oui, tout à fait. Je vous entends.
Et vous avez quel rapport avec la mélancolie? Littérairement, personnellement, si vous voulez aussi.
Hein, mais... C'est un sentiment très intéressant. D'ailleurs, mon héroïne, elle est mélancolique. Hein. C'est quelqu'un qui parfois, comme je le disais tout à l'heure, flotte au-dessus de sa vie. Et oui, elle rêve d'ailleurs souvent sa vie plus qu'elle ne la vit, qu'elle ne l'éprouve. Mm.
Qui sont les auteurs que vous aimez, vous? Alors, bien sûr, Jean-Baptiste Gendarme, j'en suis sûr, mais sinon, hors Jean-Baptiste Gendarme, quels sont les auteurs contemporains que vous lisez plutôt contemporains?
Alors, les auteurs contemporains que j'aime beaucoup Milan Kundera, j'aime beaucoup, là dernièrement, j'ai lu beaucoup Eric Reinhardt. J'ai adoré L'amour et les forêts. Par exemple, Eric Reinhardt, je trouve, décrit très très bien les sentiments et leur force, mais aussi leur fugacité. C'est un auteur que j'aime beaucoup. En plus, sa langue est très belle. Je suis très attachée aussi aux mots. Hein.
Mais voilà. Ça se voit justement quand on, enfin, ça se lit plutôt. Enfin, oui, ça se voit quand on vous lit, parce que vous avez notamment pour décrire le corps, vous avez une attention particulière pour décrire les mouvements. Votre livre est très physique aussi. C'est quelque chose que vous avez voulu ou c'est, enfin, je pense que c'est volontaire quand même, parce que vous avez le choix d'adjectifs parfois très étonnants sur un mouvement, sur les lèvres d'Antoine par exemple. J'ai oublié. Mm-hmm. Je vous écoute. Pardon.
Dans mon livre, j'ai essayé de faire en quelque sorte une exploration de l'intimité et de l'intime, et notamment par les sensations physiques que les émotions procurent. Donc je voulais qu'on arrive à vivre pratiquement les sensations des personnages. Donc vous avez bien vu mon intention.
Et moi, ce que je trouve très original dans votre livre, je ne sais pas si c'est ce qui a plu à Jean-Baptiste, on lui demandera pas, parce que ça pourrait être gênant, je ne sais pas. C'est que je trouve que vous inventez un genre, parce que vous avez à la fois créé un livre qui est une sorte d'histoire passionnelle entre deux, qui pourrait être une histoire d'amour passionnelle en tant que telle, et vous la mélangez avec une sorte de polar, avec un personnage étrange qui rôde, on ne sait pas trop qui c'est, et ce mélange des deux est très étrange. Alors, j'ai pas tout lu, mais je crois que j'ai jamais vu ça.
Non, moi non plus, c'est ça qui m'a plu aussi quand j'ai lu ce manuscrit, quand j'avais reçu.
Comment vous est venue cette idée?
En fait, c'est tout simplement une idée de lectrice. Hein. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup les livres qui me racontent des histoires, et notamment les romans policiers. J'ai toujours aimé ça. Mais en même temps, je suis souvent frustrée dans les romans policiers par l'écriture. Et je trouve que les romans policiers ne vont souvent pas assez loin, justement, dans la description des sensations, dans la description des sentiments, des émotions. Et j'ai essayé de lier les deux. C'est-à-dire une histoire à rebondissement, mais servie par une écriture, je l'espère, assez imagée.
Et vous avez, comment dire, vous avez voulu aussi raconter la vie des j'aime bien l'expression de Pierre Sansot, des gens de peu. C'était volontaire, ça?
Jean de peu, oui, bien sûr. Oui. Mais moi-même, je suis originaire d'un milieu très rural. Donc, je connais, hein. Je connais, comme vous dites, ces gens de peu.
Oui, vous parlez de la chasse, il y a la belle maison avec l'avocat parisien, moi qui viens de la campagne, tout ça, je reconnais très bien tout ça.
Exactement, j'ai eu envie de les faire vivre, de manière la plus authentique possible. En tout cas, moi, j'ai vécu une enfance un peu... une enfance rurale, donc bien sûr, j'ai pas du tout eu la même enfance que Claire, hein, c'est un personnage complètement fictif, mais je m'en suis forcément inspirée et c'était une volonté. Je connais les deux milieux et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que ces milieux ont finalement beaucoup de similitudes.
Dans quel sens?
Alors, pas forcément dans le bon sens, mais quand il s'agit de non-dits, de secrets de famille, je pense que le milieu plus parisien, bourgeois, puisque là on est dans une famille d'avocats, de père en fils, n'a rien à envier aux secrets de famille des gens de milieux plus besogneux et ruraux.
Oui, parce que finalement, le moteur de l'action de votre roman, ce sont les non-dits. Si tout le monde se parlait dès le début, ça se finirait assez vite.
Exactement. Vous avez mis le doigt sur le leitmotiv de mon roman, effectivement.
Avant de vous quitter et de vous libérer, si je vous dis que vous avez écrit un très beau mélo, ça vous vexe ou pas? Pour moi, c'est un compliment, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous vexe?
Non, ça ne me vexe pas.
C'est un genre que vous aimez bien?
Alors, mélo, je ne sais pas trop ce que vous
entendez. Mélodrame à la Douglas Sirk, quoi, quelque chose comme ça.
Disons que c'est un roman, c'est une histoire, effectivement, donc dans le sens populaire. Mais j'ai essayé de la rendre belle, oui.
Pour moi, mélodrame, c'est quelque chose qui nous fait pleurer, mais ça nous rend heureux.
Voilà. Eh ben, écoutez.
Ça vous va?
Ça me va très bien.
Merci beaucoup. On vous libère. Merci beaucoup. Si vous voulez parler à votre éditeur, profitez-en. Si vous voulez un avaloir, c'est le moment où jamais de le demander. En tout cas,
non,
merci.
Non, c'est bon. Je l'ai déjà eu. Merci.
Merci beaucoup. Et beaucoup de succès à vous. Merci. Merci, merci Sophie.
Merci. Au revoir.
Jean-Baptiste Gendarme, je reviens avec vous. Vous, quels sont vos auteurs de chevet ?
Ah, mes auteurs de chevet. C'est comme ça, il n'y en a pas qui. Mais j'aime Sophie parler de Milan Kundera. J'ai eu une période Milan Kundera. Christian Auster, pardon, j'étais long au démarrage. Christian Auster, c'est un auteur qui publie donc aux éditions de Minuit et maintenant aux éditions de l'Olivier, qui est un de mes auteurs préférés. J'aime beaucoup aussi Eric Neuhoff, ça fait toujours rire quand je dis ça, mais je sais pas pourquoi. Mais j'aime beaucoup.
Parce que je crois que pas grand monde ne le lit.
Ben ouais, peut-être, je comprends pas pourquoi. Mais voilà, après, c'est vrai que j'ai dans les auteurs que Modiano, même c'est pas très original.
Ça l'a été.
Ouais.
Et prix Nobel.
Après, j'aime bien Roger Nimier, plus ancien. J'aime bien Henri Calais, Jean Frossier, Bernard Franck. Hiverneau, Georges Hiverneau.
Il y a une parenté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec tous ces auteurs des années 20-30, enfin du siècle précédent, qui eux aussi étaient très attachés au quotidien, qui étaient vraiment qui étaient à hauteur d'homme, quoi, qui n'étaient pas du tout dans les grandes histoires politiques.
Exactement, c'est vrai. Du coup, on retrouve ça un peu dans les romans que je publie. Ouais.
Donc, vous aimeriez piquer Auster à l'Olivier, là ?
Non, le piquer, non. Mais,
vous aimeriez le convaincre ?
Bon, non, même pas. Moi, je suis content de le lire. Après, si un jour il cherche à changer d'éditeur, je lirai son manuscrit. Mais non, je suis content de le lire imprimé déjà.
C'est important pour vous là, de préparer la première rentrée littéraire que vous allez faire en septembre ?
Alors, en septembre, oui. J'aurai qu'un livre en septembre, un premier roman.
C'est un choix, ça, donc. C'est un choix. Hasard, j'imagine, puisque
non,
vous avez plein de textes.
Non, parce que j'ai beaucoup de textes. Après, moi, chez Ankaya, je vais publier 8 livres par an, donc je ne vais pas non plus en faire beaucoup. Donc, c'est vraiment des livres que je choisis, que j'ai envie de défendre. Et pour la rentrée littéraire, on a pensé qu'il fallait se concentrer. C'est très dur, une rentrée littéraire. Il y a beaucoup de livres. Je ne sais pas combien il va y en avoir cette année, mais généralement, on est autour de 600. Donc j'ai fait le choix de choisir un premier roman qui s'appelle Objet trouvé de Mathias Jambon-Pulet. C'est peut-être la première fois que son nom est prononcé.
Redites-le alors. On va.
Objet trouvé de Mathias Jambon-Pulet.
Les gens qui veulent le voir peuvent le retrouver sur votre compte Instagram aujourd'hui, parce que juste avant de venir, je l'ai vu dans le métro. Je voulais juste vous demander, pour finir, comment on travaille sur les textes, vous qui êtes aussi écrivain par ailleurs.
Alors moi, c'est vrai que j'accompagne énormément les auteurs, et c'est qu'on a pu poser la question à Sophie. Je travaille beaucoup sur les textes. Alors peut-être que c'est parce que je suis auteur par ailleurs que j'ai ce regard-là et que je vais pouvoir donner des conseils qui sont souvent suivis. Après, c'est toujours l'auteur qui reste maître de son texte. Mais j'ai tendance à vraiment être un peu interventionniste et à accompagner beaucoup les auteurs.
Vous auriez aimé être votre propre éditeur en deux mots ?
Ah ben non, c'est impossible.
Merci beaucoup, c'est déjà fini.
Merci à vous.
C'était La Relève, épisode 15, saison 2, déjà fini. Merci Jean-Baptiste Gendarme et Sophie Debert d'avoir accepté notre invitation. Jean-Baptiste, je rappelle que vous êtes l'auteur de La Nuit et des Poussières. Je pense que ça va être la fin de générique la plus rapide du monde. Sophie Debert a publié La Dérobée chez Anne Carrère cette semaine à la réalisation. Il y avait Louis Julien. Vous retrouvez tout sur la page La Relève sur le site Radio Campus Paris. Les podcasts sont à jour ou presque. Tout de suite, vous retrouvez le programme de radio musical de Radio Campus Paris à 19h comme tous les jours. C'est la matinale. Nous, on se retrouve dans 335 heures. Et voilà, j'ai fini. One day, in May, it suddenly happened.
Mais je pense que je vais essayer au moins 10 ou 15 jours sans violoncelle.
Ça vous angoisse ? Vous en parlez comme quelque chose d'un peu angoissant.
Un petit peu. En fait, ce qui m'angoisse, c'est pas ça. Ce qui m'angoisse, c'est la reprise. Ah non, non, arrêtez le violoncelle. Moi, je l'oublie tout de suite. Le violoncelle, c'est aucun problème, aucun souci. Mais c'est la reprise.
Vous, là, vous prenez le monde, vous lisez le monde tous les jours.
Tout le temps.
C'est d'accord, c'est important les prix. Vous espérez en avoir d'autres?
Non, la période des concours, j'en suis ravi d'annoncer qu'elle est terminée. c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire, qu'on soit artiste peintre ou qu'on soit musicien, on n'aime pas les concours. Et donc, c'est l'une des choses qui me réjouissait le plus avec ce prix Reine Elisabeth, c'était de savoir que c'était mon dernier concours.
Mais écoutez, merci beaucoup d'être venu. La Relève, saison épisode 16, saison 2, c'est déjà fini. Merci donc à vous, Victor Julien.
Merci
la
à vous.
Ferrière d'être venu. On mettra en ligne sur notre site toutes les informations nécessaires cette semaine à la réalisation. On a appris qu'il avait été violoniste. Il y avait Antonin. À la présentation, à la préparation, moi j'ai été accordéoniste, donc c'est Christophe. Vous retrouverez tout sur la page de La Relève sur le site de Radio Campus Paris. Les podcasts devraient être bientôt à jour. Tout de suite, vous retrouvez le programme musical de Radio Campus Paris. Et à 19h, comme tous les jours, c'est l'heure de la matinale. Nous, on se retrouve dans 335 heures pour un nouveau numéro de La Relève. Et normalement, on devrait être sage comme des images. À très bientôt.